Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. Avant d'entrer chez lui, il regarde dans sa boîte aux lettres pour lui prendre son courrier. Et monte. Prend l'ascenseur. Il a la clé de chez elle, chez lui, sur lui. Sort de l'ascenseur. Avant d'entrer chez lui, il veut essayer d'entrer chez elle. Il va vers la porte. Hésite. Puis, sonne. Attends. Et met la clé dans la serrure. Bruit étrange. La porte s'ouvre. C'est sombre. Il entre et ferme la porte. Ça lui fait bizarre d'entrer dans cet appartement où elle est absente. Pas de bruit. Un peu de lumière grâce aux persiennes qui laissent passer un peu de jour. Une odeur encore, son odeur. Toutes les portes sont ouvertes, seule celle de la chambre. Regarde dans la cuisine. Rien ne traîne. Le réfrigérateur marche. Il l'ouvre. Il est encore plein. Il va dans le séjour. Là, sur la table de bois, où il s'assoit d'habitude, il voit un mot, il le prend et lit. Denis, je pars, pense à toi, je pense à toi. Ne te fais pas de soucis, non, ne te fais pas de soucis. Thank you. arrose mes plantes, fais comme chez toi, bois, repose-toi, à bientôt. Il s'assoit un moment sur son fauteuil, n'ose pas bouger, regarde autour de lui. La pièce ressemble à un musée, et en même temps, il sent sa présence. Il est tout ému et fier d'être ici, lui, chez elle, et que ce n'est pas un de ces mecs qui est ici, mais lui, et c'est lui qui a les clés. Oui, c'est lui qui a les clés. Il reste un moment, il est malgré tout gêné et se lève. Sort de l'appartement. Fais bien attention de bien fermer la porte à clé. Puis, il entre chez lui. Il se sent heureux parce que libre. Libre, parce qu'il n'a pas à l'attendre, à se demander si elle va venir, si elle va sonner. Il est libre et fier, parce qu'il a la clé, et se dit qu'il a une carte que les autres n'ont pas. Il est plus fort qu'eux. Pour la première fois, depuis longtemps, il passe une soirée calme, tranquille, heureuse. Il a même pu regarder un film. Et dormir. Pour lui aussi, c'est les vacances. Le bonheur, c'est aussi l'absence. Le lendemain, il s'est réveillé avant que son réveil n'ait sonné. Le soir, lorsqu'il revient, il regarde dans sa boîte aux lettres et la sienne. Puis, va devant chez elle. Il a une sensation, même un peu de peur. C'est tout de même entrer chez elle. Il ne peut s'empêcher, c'est de sonner. Attends. Sonne une seconde fois. Attends. Et mets la clé dans la serrure. Le bruit de la serrure lui fait peur. La porte s'ouvre. Il entre et ferme la porte. La première chose qu'il fait, c'est de regarder dans toutes les pièces pour voir s'il n'y a personne. S'il y avait quelqu'un, ce serait très ennuyeux, surtout si c'est Marie, parce qu'elle s'appelle Marie, j'avais oublié de vous le dire. Puis, il va poser les lettres sur la table basse du salon. Il se dit, je dois arroser les fleurs. Il voit où il faut les arroser. Deux plantes dans le salon, sur la terrasse, pas de fleurs, une plante sur la terrasse. Il se dit, il faut beaucoup de plantes à arroser, quitte sa veste pour la mettre sur l'accoudoir du fauteuil, puis va à la cuisine prend un arrosoir en plastique vert et un bras en métal gris et remplit l'arrosoir d'eau au robinet et il commence à arroser. Il y a beaucoup de plantes et la terre est très sèche. Il faut beaucoup d'eau. Il est obligé d'en aller chercher plusieurs fois. À la fin de l'arrosage, il voit que le sol est mouillé. Et puis, des feuilles se sont détachées. Il ramasse les feuilles, va chercher une serpillière pour essuyer l'eau, ce qui fait que ça lui prend beaucoup de temps. À la fin, il voit que les fleurs, pour arroser toutes ces fleurs, il lui faut plus d'une heure. Il se dit, c'est bien beau les fleurs, mais ça prend du temps. Après avoir fini, il décide de s'asseoir un moment pour se détendre. Petit à petit, il s'habitue à l'appartement qui lui devient aussi familier que le sien. Et petit à petit, il se rend compte qu'il y a la présence de Marie, son odeur, ses choses. Il se met à regarder tout ça avec amour. Puis, en voyant tous ces objets sur les tables et étagères, cela l'émeut de voir une boucle d'oreille, un cendrier avec des mégots qui sont peut-être à elle. Il en prend un, s'assoit, le met à la bouche et fait semblant de fumer. Petit à petit, il prend de plus en plus de temps chez elle. Il reste assis un long moment et marche pour voir ses choses. Au début, il ne lui a rien touché. Et l'habitude venant, il touche une chose, puis une autre. Se sert un verre, écoute un CD. Il est gêné et a peur d'être surpris. Puis, il s'habitue. Il s'était promis de ne jamais ouvrir un tiroir ou une porte d'armoire ou de meubles. Ne voilà-t-il pas qu'il ouvre un tiroir comme ça, par curiosité et savoir aussi. Là, il n'y a rien d'extraordinaire. Des mouchoirs, gants. Il touche, sans son odeur. Les essais, il a l'impression, c'est de la toucher. Après un tiroir, c'est deux. C'est une armoire. Ses vêtements. Il est ému de voir ses robes. Il regarde tout, sans leur odeur. L'odeur d'amour. Il fait passer dans ses mains le tissu. Il trouve un autre tiroir. Là, ce sont ses sous-vêtements. Ça lui donne chaud. De voir ses slips, il les trouve très sexy. Les touche, il met la main. Qu'elle a été dedans. Cela l'excite, l'exalte, il les baise, le sent. Et il voit dans la glace de l'armoire, il y a le tiroir, son visage. Il se trouve ridicule. Et à honte. Un garçon sérieux, faire des choses pareilles? Elle lui a fait confiance. Si elle le savait, elle serait très déçue. Comme sa mère, le jour où elle l'a vu se masturber devant la télévision. Un soir, au salon, elle est entrée sans prévenir. Il avait eu une honte terrible. Et sa mère, en une seconde, a perdu ses illusions sur lui. Elle lui a dit qu'elle ne pensait jamais qu'il était comme ça, qu'il était dégoûtant comme les autres, et qu'il l'avait beaucoup déçu. Depuis cette scène, il n'a plus jamais osé regarder sa mère en face. Il se dit que si Marie le voit faire, il n'aura plus jamais le courage de la regarder en face, comme sa mère. Il baisse les yeux, ne se voit plus. Slip. Range de slip dans le tiroir. Le ferme et ferme l'armoire. Ce que j'ai fait n'est pas digne de son amour ni de sa confiance. Et il s'en va peu d'eau. Il va tous les jours à l'appartement, sonne, attend. Pourtant, elle sait qu'il n'est pas là, qu'elle n'est pas là. La première des choses qu'il fait, c'est de voir s'il n'y a personne. Il regarde dans toutes les pièces, Puis, il dépose les courriers, arrose les fleurs, c'est long et pénible. Puis, il va s'asseoir. À un moment, dans son fauteuil, il regarde autour de lui. Il aime voir les rayons du soleil posés sur les meubles, le parquet. Puis il se lève, fait son tour. Au début, il regarde, se dit qu'il ne doit pas toucher. Puis petit à petit, il faut qu'il fouille, qu'il touche, malgré qu'il s'était dit qu'il ne le ferait plus. Un jour, il trouve dans un placard une boîte à chaussures. Il la prend et l'ouvre. Il trouve des papiers garde ses papiers et voit que c'est les papiers de consultation de la clinique Jaune-Tout-Riquin. Il y en a énormément, peut-être 100, 200. Il regarde les dates, que la semble être une consultation toutes les semaines. Il essaie de lire, mais c'est écrit en écriture de médecin, illisible. Il se demande si elle n'est pas malade. Voilà la dernière date. Elle date de 2 ans. Oui, elle est peut-être malade, et d'une maladie qui demande beaucoup de soins. Mais de quelle maladie elle a ? Elle a l'air bien ? Puisqu'il n'arrive pas à lire, il range la boîte à chaussures pour la remettre dans le placard. Il se dit que si elle est malade, elle doit avoir des médicaments pour se soigner. Alors, il va à la salle de bain. Et regarde l'armoire à pharmacie. Elle est vide. Mais trouve un petit papier d'un médicament, genre redempoint et contre-indication. Il le déplie et lit que c'est un médicament contre le vieillissement des cellules. Elle lui a envoyé une carte de Rome. Il lui dit qu'il fait très beau et que les Romains sont très beaux. Elle pense à lui et lui dit qu'elle sera là la semaine prochaine, samedi après-midi. Il est heureux et en même temps inquiet qu'elle revienne. Il se dit que tout va recommencer. L'anxiété, l'attente. Là, il pouvait l'aimer en pensée et il était plus près d'elle que lorsqu'elle était là parce qu'il vivait tous les jours avec ces choses. Il profite à fond de ses derniers jours. Essaye de voir si elle n'a pas des photos de famille ou autre. Et non, pas de photos, pas de lettres non plus. Il se souvient qu'elle est orpheline, la pauvre. Pas de père, ni de mère, pas de parents. Le vendredi, avant son retour, il fait son ménage. Fait le ménage à fond et cache toutes ses indiscrétions. Il arrose bien les fleurs, va même lui remplir son réfrigérateur, lui acheter un bouquet de roses, 5 roses, et une fois que tout est en ordre, il regarde une dernière fois l'appartement. Qui ne sera plus à lui. Et il le quitte. Et il rentre chez lui. Il se retrouve chez lui, tout bête, ne sachant que faire. Il trouve son appartement froid et sans vie. Il attend chez lui, les attentes qui recommencent, ne sait quoi faire et s'ennuie. L'excitation de la recherche de quelque chose, de tiroir, de trouver quelque chose dans un tiroir, un placard, lui manque. Il ne va tout de même pas s'exciter en ouvrant son propre tiroir et en voyant ses slips. Il entend du bruit sur son palier. Sans faire de bruit, il va voir où je dors. Là, il la voit de dos. Elle sort des valises de l'ascenseur. Il se dit qu'il pourrait peut-être aller l'aider. Mais non, ce serait pas poli et monstrueux qu'il l'épie. Non, il vaut mieux qu'il attende qu'elle vienne sonner chez lui. Elle doit être fatiguée, elle doit avoir besoin de repos. Elle ferme l'ascenseur. Et entre chez elle. Silence. Il retourne à son séjour. Et s'assoit pour attendre. Cela l'excite tellement qu'il est incapable de faire quoi que ce soit. Les heures passent. 4h30, il sort du salon pour aller à la cuisine. Pour se préparer quelque chose à manger. Il va se faire avec des œufs et des pommes de terre une omelette. À 23h, il va se coucher. Elle n'est pas venue. Peut-être demain. Il passe une nuit agité parce qu'il n'a pas assez bougé, n'est pas assez fatigué. Lendemain, c'est dimanche, se lève à 8h30. La matinée se passe comme il peut, en écoutant la radio, en se préparant le repas, en lisant le journal. L'on sonne à la porte. À ouvrir. C'est elle. Elle est en robe beige, bronzée, avec une mine superbe. Elle lui dit bonjour, bonjour. Il s'embrasse. Entre. Elle entre. Ferme la porte. Il lui dit, tu es splendide, merci, viens, allons au salon. Il l'amène au salon. Entre. Assieds-toi, il la fait asseoir. Tu veux boire quelque chose? Oui, un martini. J'en ai pris l'habitude. Et il va le lui chercher dans le petit coin bar. Il pose sur la petite table basse. Et il fait le service. Tiens, merci. Il s'assoit en face d'elle. Alors, ça s'est bien passé? Oui, soleil, les Italiens sont gentils et c'est beau l'Italie. Et toi? Moi, rien. Elle lui dit, je te remercie pour tout ce que tu as fait, ça m'a fait très plaisir. Il est rouge de plaisir. Elle lui dit, tu sais, là-bas, j'ai fait la connaissance avec un bel Italien de 19 ans, magnifique. Mais il vivait avec une femme, quel cinéma! Tu ne peux pas savoir. J'ai bien failli ne pas venir de suite. Ensuite, j'ai fait la connaissance d'un autre, 19 ans, magnifique lui aussi. Mais c'était avec sa mère que le cinéma avait lieu. Je ne pouvais pas venir de suite. J'ai failli ne pas venir de suite. Je n'avais plus d'argent, complètement à sec. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Ben, je me suis débrouillé. Comment? Elle lui dit, tu sais, ça ne dure pas longtemps, 5 minutes. Il est triste et a envie de pleurer. Elle lui dit, faut pas me faire la tête pour si peu de choses. Il ne dit rien. Elle lui dit, allez, n'en parlons plus. Il lui demande, tu as besoin d'argent? Elle lui dit, non, ça va. Je vais recevoir ma paye. Bien, il faut que je parte parce que j'ai mon linge à laver. Lui aussi. Il lui dit, j'ai tes clés à te rendre. Elle lui dit, garde-les, ça peut servir, on ne sait jamais. Et il la raccompagne. Ils sortent du salon. Lui fait la bise. Merci pour tout. À bientôt. Et elle part. Je sens tout triste et tout étourdi. J'imaginais son retour autrement. Et elle aussi. Elle est aussi belle, mais tellement plus ravissante que dans ses passés, dans ses pensées. De l'avoir vu, cela le gêne pour pouvoir l'aimer vraiment. Il lui semble qu'il l'aime moins. En vrai, elle est trop turbulente et insouciante. Et puis elle dit des choses effrayantes. Je n'aurais jamais pensé qu'il puisse aimer une femme qui lui dise qu'elle se prostitue pour finir ses fins de mois. Elle en aurait été dégoûtée. Là, il allait se faire dire. Il se demande pourquoi il aime cette fille qui est en réalité le contraire de ce qui est. Elle est vivante, va, vient et sans tête, a des amants par-dessus la tête. Rien n'est sérieux pour elle. Qu'est-ce qu'il croit pouvoir faire avec une fille comme ça? Elle ne pourra jamais l'aimer et lui avoir confiance. Alors serait-il devenu fou? Qu'il arrête avec cette fille. Mais il sent qu'il ne peut pas. Il aime toujours malgré lui, malgré ses défauts. Il se dit qu'il se prépare à une vie de souffrance et que c'est de sa faute parce que personne ne le force à aimer cette fille, même pas elle. Alors, thank you. Le lendemain, avant d'entrer chez lui, il entre dans une pharmacie qui est tout près de son travail. Il demande au pharmacien, un homme sec, à cheveux blancs et lunettes métal, ce que c'est que ce médicament. Le pharmacien regarde le papier et lui dit « Où vous avez trouvé ceci ?»«
Par hasard, dans une pharmacie. Une vieille pharmacie que j'ai achetée d'occasion. »
Le pharmacien lui dit « Je ne peux pas vous en vendre. C'est très dangereux. Et ça ne peut être pris que par des gens spéciaux. »
Il lui demande « Donc quelle maladie ?»
Le pharmacien lui dit « J'ai pas le droit de vous le dire. Secret défense. »
« Mais est-ce dangereux ?»«
Pour eux, oui. » »«
Mais eux qui ?»«
Ah, ça !»
Il prend le papier et le déchire. Denis lui demande « Pourquoi avez-vous fait ça ?»
dit « Ils sont censés ne plus exister. Ce doit être une très vieille pharmacie que vous avez. Approchez-vous. Montrez-moi vos yeux. »
Denis s'approche et regarde ses yeux. Denis lui demande « Qu'est-ce que j'ai ?»
Le médecin lui dit « Vois rien. Tout est normal. » L'autre doit être mort déjà depuis longtemps. »
Denis lui dit « Merci, monsieur. »
Et il sort de la pharmacie.
Il se dit que ce ne doit pas être un médicament pour elle.
Les jours passent, il se voit une fois par semaine. Il lui a raconté l'Italie. Elle lui a ramené aussi une bouteille de martini.
Merci.
Il décide de toujours la laisser et de ne jamais la boire. Elle lui raconte ses amours et la trouve cruelle. Pour elle, un homme, c'est un objet. Il se dit, elle est inhumaine. Continue à l'aimer. Le temps passe. Il aide à faire des courses. Il lui amène son linge à la laverie. Il lui fait le ménage.
Assis l'un à côté de l'autre, elle se met à pâlir, à grimacer. Il lui demande apeuré, vous êtes malade? Elle ne peut répondre. Se lève, fait un pas et tombe. Il accourt vers elle, la soulève. Elle ne bouge pas, mais le pouba. Marie, qu'avez-vous, Marie? Marie! Il voit qu'elle ne peut répondre. Il lui dit, je vais téléphoner, appelez les pompiers. Vite! Il prend le téléphone qui se trouve sur une table basse, fait le numéro. Allô? Allô? Pompier? Bonjour. Je suis chez une amie qui a eu un malaise. Elle est tombée. Elle ne peut se relever. Elle est inconsciente. Voilà son adresse. tard, l'on sonne à la porte. Il va ouvrir. C'est les pompiers. Entrez. Venez vite. Ils entrent. Et ils les mènent à Marie, allongée à terre, sans connaissance. Un pompier se penche. Il lui met un masque à oxygène. Il dit, faut l'amener à l'hôpital. Qu'a-t-elle ? Demande Denis. On ne sait pas. Et ils mettent Marie sans connaissance sur un brancard. Puis, voilà sortir de l'appartement. Je pars avec vous, dit Denis. Oui, si vous voulez. Et ils sortent de l'appartement. Et prennent l'ascenseur. À l'hôpital, elle a été menée aux urgences. Et pour l'examiner, Denis, anxieux, est dans le couloir. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti.